Chercher à plaire aux gens peut voler l'intimité avec Dieu. Les gens veulent beaucoup de choses de nous. Mais le problème, c'est qu'ils ne pensent normalement pas à ce qui sera bon pour nous. Ils pensent à ce qui sera bon pour eux. Bonjour! Nous pouvons laisser Dieu combattre lui-même pour nous en développant la relation étroite, intime et personnelle avec Dieu que Jésus est mort pour que nous ayons. Je dis ça tout le temps, Jésus n'est pas mort pour que nous puissions tous avoir notre marque de religion. Il est mort pour que nous puissions communier avec Dieu le Père, avec lui, avec le Saint-Esprit et les uns avec les autres. L'intimité est en fait un mot qui fait peur à certains gens. Si vous avez été blessé dans une relation, vous avez peut-être peur de l'intimité. Et parce que les gens ont tendance à penser que c'est un mot plutôt fifi, les gars le fient parfois. Mais l'intimité veut dire l'unité ou l'union avec Dieu. Jésus dit « Moi et le Père, nous sommes un. Je fais ce que je le vois faire, je dis ce que je l'entends dire. » Nous devons apprendre à devenir un avec Dieu. La façon la plus simple de le dire, c'est que vous devez laisser Dieu sortir de la boîte du dimanche matin, de 7h le dimanche matin ou de 7h30 de culte en milieu de semaine. Je ne sais pas, peut-être même vous lisez quelques versets par jour et vous dites une prière de 10 minutes. C'est un casse-croûte. Vous ne pouvez pas vivre de casse-croûte. Vous devez avoir de bons repas nutritifs, de plusieurs plats. Vous devez prendre l'habitude de Dieu et savoir littéralement que vous ne pouvez rien faire sans Dieu, qu'il est tout et que sans lui, vous n'êtes rien. Je ne suis rien. Sans lui, nous ne sommes rien. Plus vous passez du temps avec Dieu, et quand je dis passer du temps avec Dieu, cela ne veut pas dire s'asseoir dans un coin et prier toute la journée. Je parle d'introduire Dieu dans tous les domaines de votre vie. Si vous allez à l'épicerie, allez avec Dieu. Si vous allez au travail, allez avec Dieu. Intégrez-le dans tout ce que vous faites. Ne mettez pas Dieu dans une boîte religieuse en croyant que vous allez gérer tout le reste de votre vie. Ouvrez votre vie tout entière à Dieu. Mettez-le au courant de tout parce qu'il se soucie de tout. Plus vous développez une relation intime avec Dieu, plus le diable aura peur de vous. Pour moi, c'est un secret merveilleux car nous aurons beaucoup de plaisir en développant une relation avec Dieu. Qui ne voudrait pas être avec Dieu? Non, mais qui ne voudrait vraiment pas passer du temps avec Dieu? Non, mais il doit y avoir quelque chose qui ne va pas pour ne pas vouloir passer du temps avec Dieu. Non, mais il peut tout faire, il sait tout, il est tout, il a tout le pouvoir. Il vous aime parfaitement, il veut s'occuper de vous. Donc, plus nous passons du temps avec Dieu, plus nous deviendrons puissants et moins nous accorderons de l'attention aux choses que fait l'ennemi. Un verset pour le prouver, puis nous allons parler de nouvelles choses. Psaume 91:1. Celui qui demeure dans la maison secrète du Très-Haut reste stable et inébranlable à l'ombre du Tout-Puissant, dont la puissance ne peut être assaillie par aucun ennemi. Le diable n'est pas plus grand que Dieu. Amen. Donc, si je vous disais aujourd'hui, combien d'entre vous veulent cette relation avec Dieu? Tout le monde lèverait la main, donc pas la peine de vous le demander. Je sais que vous lèverez la main. Pourquoi donc nous ne faisons pas ça? Parce qu'il y a des obstacles à ce genre de relation avec Dieu. Il y a des choses que l'ennemi utilise pour nous entraver, pour nous empêcher de développer ce genre de relation avec Dieu. Et rappelez-vous, j'ai dit développer. C'est quelque chose qui grandit. Nous commençons quelque part et nous allons quelque part et nous nous retrouvons quelque part. Une des choses qui va nous entraver est le travail. Or, nous sommes censés travailler. Vous devez trouver le juste milieu entre être un bourreau de travail et être paresseux. Ne soyez pas paresseux, mais vous ne devez pas glorifier le travail à tel point que vous ne faites que travailler pour essayer d'avoir encore et encore de trucs dont vous n'avez pas besoin de toute façon et que vous ne pouvez pas prendre. Rappelons-nous que tout ce que nous apportons à la maison est déjà en train de se détériorer. Tout ce que vous devez faire, c'est de passer par un entrepôt de chiffonniers ferrailleurs Regardez tout ce qu'il y a là-bas, les tas de métal, la rouille, la détérioration, la saleté, la crasse, le désordre, et rendez-vous compte qu'à un moment donné, c'était le rêve de quelqu'un et qu'il a peut-être sacrifié pour ce tas de ferraille une relation avec Dieu, sa famille, sa santé mentale. Nous renonçons à trop de choses. Pasteur Tommy a prêché une fois un message intitulé « Le coût élevé d'un frisson au bon marché ». C'est incroyable le prix élevé que nous payons pour avoir si peu. Ouh! Ouh! Ah! Qui comprend ce que je veux dire? Donc, on achète le nouveau « ouh » puis on trouve un autre emploi pour payer le « ouh » qui ne nous fait aucun « ouh » maintenant. Maintenant, le « ouh » est devenu « beurk ». N'est-ce pas? Donc, le travail. Marthe avait un problème de travail. Regardons Luc, chapitre 10, le verset 38. Le travail est trop bon. Je n'aime même pas rester assise à ne rien faire tout le temps. J'étais un bourreau de travail. Je me sentais coupable quand je me reposais. Si vous êtes comme moi, alors vous êtes un bourreau de travail. Bonjour. Vous m'entendez? J'ai touché la corde sensible. Si vous vous sentez coupable, quand vous vous reposez, vous êtes un bourreau de travail. Vous croyez que le travail est la seule chose qui a de la valeur pour Dieu. Mais c'est faux. Vous devez avoir l'équilibre. Si vous n'avez pas l'équilibre, vous ouvrez une porte au diable dans votre propre vie. 1 Pierre 5,8. Soyez bien équilibrés, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant avec une faim dévorante, cherchant qui il pourra attraper et dévorer. Satan ne peut pas dévorer qui il veut que quand il trouve quelqu'un dont la vie est déséquilibrée. Qu'arrive-t-il quand vous êtes fatigué? Vous êtes grognon, vous êtes grincheux, vous êtes difficile à vivre, vous ne voulez pas prier, vous n'êtes pas sensible aux besoins des autres, Dieu ne vous parle pas, puis vous explosez en émotion, et cela va de mal en pis. Le fait d'être trop fatigué peut nous causer de graves problèmes. Donc, nous devons travailler, parce que si vous ne travaillez pas, vous serez vraiment misérable. Nous ne sommes pas créés par Dieu pour traîner et ne rien faire. Nous devons travailler, nous devons être créatifs, nous devons être actifs, mais il faut avoir l'équilibre. Et je me permets de suggérer qu'il y a beaucoup de personnes ici aujourd'hui qui n'ont pas l'équilibre. Vous êtes des bourreaux de travail. Dieu soit loué, je vous félicite. Vous avez arrêté de travailler pour venir ici et m'entendre dire que vous ne devez pas être excessif dans votre travail. Amen. Il m'a fallu du temps pour me reposer. Je travaillais tout le temps et voici ce que les travailleurs font tout le temps. Ils travaillent tout le temps et ils se plaignent de travailler tout le temps. Donc, si vous vous plaignez vous-même de travailler tout le temps, cela signifie que vous êtes un bourreau de travail. Et tout le monde en a assez de vous l'entendre dire. Parce que vous le faites pour vous-même et cela pour attirer l'attention. Vous le faites pour avoir l'impression que vous valez quelque chose et cela signifie que vous ne prenez pas votre valeur de votre relation avec Dieu comme vous le devriez. Vous devez travailler en sachant qui vous êtes et non pas pour essayer de savoir qui vous êtes. Laissez-moi répéter, vous devez travailler en sachant qui vous êtes et non pas pour essayer de savoir qui vous êtes. Quand j'ai commencé à faire ça, je manquais d'assurance. Oui, j'avais un appel sur ma vie, mais il y avait beaucoup de choses qui ont dû être ajustées au fil des ans. J'avais un appel sur ma vie, mais je manquais d'assurance. Donc, j'avais un mélange d'ambition et d'un appel sur ma vie. Et Dieu merci, au cours des années, Dieu a pu redresser ça.
Et plus vos motifs sont purifiés, plus vous devenez puissant et plus vous faites ce que vous faites pour la bonne raison. Dieu se soucie davantage de pourquoi nous faisons les choses que de ce que nous faisons. Quand j'ai tout d'abord commencé ça, j'ai acquis beaucoup de valeur de ce que je faisais. Des foules qui m'applaudissaient et ceci et cela et quelque chose d'autre. Et je peux vous dire sincèrement, à ce stade dans ma vie, j'aurai bientôt 69 ans. J'aurai mes 70 ans dans 18 mois seulement. Pouvez-vous croire ça? Oh mon Dieu! Je n'ai pas besoin de faire ça pour impressionner quiconque. J'ai été partout, j'ai tout fait. C'est si libérant de dire que je ne cherche à impressionner personne. Je travaille en sachant qui je suis. Je travaille en sachant que Dieu m'aime Et je fais ça parce que je crois vraiment de tout mon cœur que c'est ce qu'il veut que je fasse et je le fais pour lui. Et quand vous en arrivez à ce point, quel que soit votre travail, maintenant vous êtes libre de jouir de tout ce que vous faites. Je veux que vous sachiez aujourd'hui que je jouis de ceci. Et vous seriez choqué par le nombre de personnes ici qui sont occupées, travail, 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 travail. Et si vous leur demandiez si elles aiment ça, elles diraient non. À quoi sert de passer votre vie à faire quelque chose que vous n'aimez pas? Amen. Luc chapitre 10, verset 38. Comme ils étaient en route, Jésus entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut et l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise au pied de Jésus, écoutait sa parole. Elle a vu l'occasion et elle en a immédiatement profité. Vous savez, c'est bon d'avoir un plan, mais nous devons toujours être prêts à abandonner notre plan si Jésus se présente. Il est bon d'avoir un plan. Je suis une personne qui planifie, mais vous devez laisser Dieu vous interrompre quand il le veut. Ne portez pas une pancarte « Ne pas déranger » autour du cou. Laissez Dieu être le pilote dans votre vie. Donc Jésus est venu. Je ne sais pas si les deux sœurs savaient qu'il allait venir chez elles. Il est venu. Jésus est ici. Marie en a profité. Elle s'est assise à ses pieds pour écouter son enseignement. Mais Marthe était distraite par beaucoup de services. Qui comprend ça? Elle était distraite par beaucoup de services. Elle était occupée. Quels sont les obstacles à l'intimité avec Dieu? Nous sommes distraits par toutes les choses que nous croyons que nous devons faire, la plupart desquelles nous n'avons pas besoin de faire. Nous sommes accros à l'activité. Et étant venue à Jésus, elle dit, « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissée seule à faire le service. » Vous voyez, elle travaille et s'en plaint aussi. Êtes-vous avec moi? Regarde à quel point je suis maltraitée. Voici Marie assise à tes pieds, elle s'amuse bien et moi, je dois faire tout le travail. Je me demande combien de fois mon mari et mes enfants ont entendu ce discours. Je fais tout le travail par ici et vous ne faites que vous amuser et jouer et mettre du désordre et je dois tout nettoyer. Vous dites, eh bien c'est vrai. Pourquoi vous n'arrêtez pas pour vous amuser un peu avec la famille et dire, devinez quoi, nous allons tous travailler? Pas seulement moi, mais tous. Mais à vrai dire, la moitié du temps, nous disons que nous voulons de l'aide, mais ce n'est pas vrai car personne ne fait le travail aussi bien que nous. Bon, revenons à nos versets. Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissée seule à faire le service. Dis-lui donc de m'aider. Pouvez-vous imaginer? Veux-tu lui dire de s'éloigner de tes pieds et d'arrêter de t'écouter? Et de m'aider à nettoyer cette maison? Dis-lui de m'aider et de prêter la main. Mais le Seigneur a répondu, Marthe, Marthe. Joyce, Joyce, tu t'inquiètes et t'agites pour beaucoup de choses. Mais il n'est besoin que d'une seule chose ou de peu de choses. Marie a choisi la meilleure part, qui est dans son intérêt, la part qui ne lui sera pas enlever. Nous devons tous travailler, mais il se peut que certaines personnes ici aujourd'hui doivent modifier certaines priorités. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent à la télé ou sur le web et vous devez modifier vos priorités. Les gens me demandent toujours « Comment tu définis correctement tes priorités avec tes responsabilités ?» Et je peux vous dire la réponse. Je leur dis « Je les modifie toujours. » Perdre l'équilibre, laisser ses priorités dérailler, est probablement une des choses les plus faciles à faire au monde, simplement parce qu'il y a tellement de demandes qui viennent à nous chaque jour et tant d'attentes. C'est pourquoi vous devez régulièrement prendre un moment, faire l'inventaire. Peut-être une fois par semaine, passer en revue tout ce que vous avez fait la semaine dernière et dire « Quelle partie de ceci a été inutile, n'a pas porté de fruits, dont j'aurais pu me passer ?» Donc si vous prenez le temps de passer en revue les choses, vous ne ferez pas la même chose la semaine prochaine et la semaine d'après et la semaine d'après et la semaine d'après. Je crois que vous devez constamment modifier vos priorités. Je crois qu'elles ne restent pas bonnes tout le temps. Je crois que vous devez continuellement les modifier. Et comme vous vieillissez et les saisons de votre vie changent, vos priorités doivent changer. Les choses changent toujours dans la vie. Philippiens 1:10, jetons-y un coup d'œil. Pour que vous appreniez à discerner ce qui est essentiel et à approuver et à estimer ce qui est excellent et de valeur réelle, reconnaissant le meilleur et le plus élevé. Ne vous contentez pas de faire de bonnes choses. Sachez quelles sont les meilleures choses que vous devez faire de votre temps. Reconnaissant le meilleur et le plus élevé et discernant les différences morales, nous devons toujours apprendre à reconnaître le meilleur et le plus élevé. Vous savez, j'ai ce... Je ne sais pas ce que vous l'appelez sur votre truc. Nous l'appelons TiVo chez nous. C'est le magnétoscope numérique pour certains, mais ce n'est que ce petit truc où vous pouvez enregistrer des programmes en avance et puis ils vont dans la file d'attente et vous les placez par ordre d'importance. Quelqu'un sait de quoi je parle? Bon, donc vous savez, de temps en temps, je vais et je refais mes priorités là-dedans. Je dis, eh bien, vous savez, je n'aime pas beaucoup celle-ci. Je vais la prendre et la mettre en bas. Et l'autre jour, j'ai pensé, je n'aime même pas celle-là. Je vais m'en débarrasser. Eh bien, je vais prendre celle-ci. Je veux que celle-ci soit la chose numéro 1 et que celle-là soit le numéro 2. Et c'est cool car vous essayez certaines choses et si vous n'aimez pas ce que vous obtenez, vous revenez là-dedans et modifiez les priorités. Il en va de même pour notre vie. Vous devez simplement prendre le temps de regarder et de penser. Suis-je satisfait? Suis-je comblé? Ai-je l'impression de grandir dans ma relation avec Dieu? Suis-je au service d'autrui? Si vous n'avez pas le temps d'être une bénédiction pour quelqu'un d'autre, vos priorités sont complètement foirées. Prenez le temps dans votre vie pour servir les autres et vous devez le faire exprès, peu importe si vous en avez envie ou pas, car nous sommes appelés à faire cela. Aimez Dieu, nous aimez les autres. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et tout cela vous sera donné par surcroît. 1 Jean 5:21. Petits enfants, gardez-vous des idoles, des faux dieux, de toutes choses. Donc, quand nous pensons aux idoles, nous ne devons pas penser, vous savez, à une petite statue devant laquelle les gens se prosternent. Je doute fort que quiconque ici fasse ceci, mais cela ne signifie pas qu'aucun de nous n'a d'idole dans sa vie. Gardez-vous de toutes choses qui occuperaient dans votre cœur la place qui est due à Dieu, de toutes sortes de substituts qui prendraient la première place dans votre vie. Dieu exige la première place. Il est un Dieu jaloux. Donc le travail, bien que le travail soit une bonne chose, il peut vous éloigner de Dieu. Le divertissement peut être un obstacle dans notre vie avec Dieu. Dans notre pays, nous semblons être accros au divertissement et cela empire tout le temps. La plupart des gens passent plus de temps à se divertir qu'à faire n'importe quelle autre chose qu'ils font en dehors du travail. Eh bien, le divertissement est bon. Vous savez, je mets de l'amusement dans tous les jours de ma vie, si possible, car je crois que cela fait partie de l'équilibre. Nous avons besoin d'adoration, de travail, de repos et d'amusement. Vous devez avoir un équilibre dans ces quatre choses. L'adoration, le travail, le repos et l'amusement. Donc, nous avons besoin de divertissement. Mais ce qui arrive si vous avez travaillé toute la journée et si vous avez parlé à Dieu un peu ce matin quand vous êtes sorti et puis vous vous êtes plongé dans des choses. Je sais comment ça se passe. Je me surprends parfois à faire la même chose. Vous êtes occupé toute la journée, vous rentrez chez vous fatigué, donc vous voulez vous divertir. Je comprends. Mais que se passerait-il si vous preniez juste une demi-heure avant de faire ça? Oui, juste une demi-heure. Prenez une boisson fraîche ou une boisson chaude, comme vous voudrez. Allez dans un coin tranquille. Mon Dieu, nous avons besoin de calme. Oh, nous allons en parler dans un instant. Le bruit est une autre distraction. Prenez un livre que vous aimez lire et qui parle de Dieu. Un bon livre spirituel ou la Bible. Juste 30 minutes. Parlez à Dieu de votre journée. Tu sais, Seigneur, j'ai eu une rude journée, désolée d'avoir été occupée. Je me suis trouvée pris dans un tas de choses que je n'avais pas besoin de faire. Seigneur, pardonne-moi, aide-moi, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. J'ai besoin de toi. Aide-moi à grandir en toi, aide-moi à être comme toi. Lisez un peu plus, parlez un peu plus. Ces 30 minutes passeront vite. Ensuite, si vous le voulez, allez vous divertir. Mais ne laissez pas le divertissement, le désir de se divertir, nous empêcher de donner la priorité à Dieu dans notre vie. Combien d'entre vous savent que tout ce que je dis est correct, que Dieu doit être le numéro un dans votre vie? Le divertissement est une grande industrie. Même les enfants y sont accros. La vie est très différente aujourd'hui de ce qu'elle était quand j'étais adolescente. J'allais à l'école, je travaillais après l'école, je revenais, je faisais mes devoirs, les tâches ménagères, j'allais me coucher, je me levais le lendemain et je recommençais. Si j'étais autorisée à faire une chose qui pourrait être considérée comme divertissement le week-end, c'était normal, c'était de cette façon que tout le monde vivait. Et aujourd'hui, les enfants passent plus de temps à se divertir qu'à faire n'importe quoi d'autre. Avez-vous l'impression d'être un chauffeur à plein temps pour vos enfants? Vous les prenez d'une activité à l'autre, à l'autre, à l'autre, à l'autre? Les enfants devraient s'impliquer dans les choses, mais ils ne devraient pas s'impliquer dans toutes choses. Je crois que quand vos enfants sont à l'âge où ils peuvent le faire, vous devez leur demander de travailler. Eh bien, vous savez, c'est très dur. Ils ont le foot, et ils ont ceci, et ils ont cela, et ils ont leurs devoirs. Le travail est plus important que le foot, que vous le sachiez ou non. Notre Benjamin m'a dit hier, il a 31 ans maintenant, il a dit, « Je suis tellement reconnaissant que vous, papa et maman, avez exigé que je travaille. Pourquoi ? Parce qu'il connaît des gens de son âge qui n'ont pas une seule compétence dans la vie. » Vous devez apprendre ces choses à vos enfants. Vous n'êtes pas méchant avec vos enfants si vous leur demandez de trouver un emploi pour gagner une partie de leur argent. Sachez que si vous continuez à tout donner à vos enfants, alors ils n'auront aucun moyen de savoir apprécier la valeur de le gagner. Donc voici ce qui arrive. Tout d'un coup, ils auront 21 ans et ils auront une attitude de droit. Mais nous sommes responsables. Nous sommes les parents. Amen. Donc, il y a peut-être quelques ajustements que vous devez faire là. Peut-être une petite réunion de famille, une fois par semaine, où vous parlez des choses de Dieu, ne ferait pas de mal à personne. Laissez Dieu être une partie régulière de votre maison. Ne soyez pas trop légaliste et n'essayez pas de tout transformer en quelque chose de spirituel pour vos enfants. Vous ne pouvez pas faire ceci et cela et quelque chose d'autre. Ne vous peignez pas comme ça, enlevez cette boucle d'oreille. Écoutez, beaucoup de choses que nous faisions quand nous étions adolescents semblaient aussi bêtes pour nos parents que les choses que les adolescents veulent faire aujourd'hui. Amen. Un autre demi-applaudissement. Bon, une autre chose qui peut voler votre temps avec Dieu sont les demandes des gens. Et c'est en fait une grande chose. Chercher à plaire aux gens peut voler l'intimité avec Dieu. Les gens veulent beaucoup de choses de nous. Mais le problème, c'est qu'ils ne pensent normalement pas à ce qui sera bon pour nous. Ils pensent à ce qui sera bon pour eux. Bonjour. Et vous savez quoi? Ils n'ont même pas l'intention de nous maltraiter. C'est simplement que, fondamentalement, tout le monde est égoïste à moins qu'il ne s'y oppose tout le temps. Et donc, nous utiliserons les autres pour augmenter notre joie s'ils nous laissent faire ça, et les autres nous feront ça si nous les laissons faire. Il n'y a pas de mal à dire non. Et chaque fois que vous dites non à quelqu'un et il veut entendre oui, il ne va pas aimer ça pour quelque temps, mais voici l'essentiel. Les gens qui vous aiment vraiment n'essayeront pas de vous contrôler. Et les gens qui vous aiment vraiment voudront que vous preniez la décision qui sera la meilleure pour vous et non pas celle qui sera la meilleure pour eux. Amen. Je sens que certains d'entre vous pourraient consacrer beaucoup de temps à Dieu si seulement vous éliminiez certaines des « il faudrait et je devrais » que vous faites, des choses que vous détestez et que vous ne voulez pas faire et pour lesquelles vous ne sentez aucune onction et dans lesquelles il n'y a aucun fruit et vous ne croyez même pas que c'est ce que le Seigneur veut que vous fassiez, mais vous craignez d'exaspérer quelqu'un.
Vous craignez de blesser quelqu'un.
Eh bien, vous savez, il s'y attend. Eh bien, il s'y attend. Eh bien, et Dieu alors?
Où est-il?
Dans la liste des exigences et des attentes dans votre vie.
Il exige d'être le premier et il vous dit, si je ne suis pas le premier dans votre vie, devinez quoi, rien d'autre ne va marcher.
Y a-t-il quelqu'un en ce moment qui se rappelle des choses qu'il sait fort bien, que les faire absorbe son temps, mais il les fait parce que quelqu'un d'autre les exige et s'y attend? Voyons vos mains.
Mon Dieu!
C'est bon de savoir que j'ai le bon message pour le bon groupe. J'aime ce que Paul dit dans Galates 1:10. Je l'aime, je l'aime, je l'aime. Si j'en étais encore à plaire à des hommes, je ne serais plus apôtre du Seigneur Jésus-Christ. J'aime ça.
La plupart du temps, vous ne pouvez pas répondre à l'appel de Dieu dans votre vie et être populaire aussi.
Parfois, vous devez perdre quelques amis pour gagner quelques vrais amis.
Je crois que la plupart d'entre vous diraient « Je veux vraiment donner la priorité à Dieu dans ma vie. » Mais vous faites peut-être des choses qui vous entravent. Nous faisons tout ça. Donc, sachez ce qui vous empêche de donner la priorité à Dieu et apprenez à modifier les priorités dans votre vie.